Les énigmes de Luca Gandros Fernandez, disponibles en podcast sur votre application préférée.
Ces fables, on en a tous appris au moins une à l'école, mais sa vie, on la connaît beaucoup moins bien. Permettez-moi de vous en apprendre un peu plus sur ce poète de génie qui n'a jamais voulu se soustraire à l'autorité royale. Il naît en 1621 et grandit dans un cadre familial bourgeois, installé dans un confortable hôtel particulier avec un frère et une sœur qu'il aime tout particulièrement. Son père est alors conseiller du roi et maître des eaux et des forêts, comprenait chargé de surveiller et de réguler la pêche et la chasse dans le domaine royal. Après s'être essayé au droit et avoir voulu revêtir l'habit religieux, il hérite finalement de la charge de son père, ce qui lui laisse le temps de s'adonner à la lecture. Car depuis qu'il est adolescent, bien qu'on le dise fainéant, il adore Rabelais et ses récits de géants. Dans sa jeunesse, il rejoignait même le cercle des chevaliers de la Table Ronde, où il y retrouvait ses amis, épris de liberté. Pendant 20 ans, donc, il se promène à cheval ou à pied à travers les domaines forestiers royaux et vérifie que les règles sont correctement respectées. Mais le poste n'est pas assez rentable et il est bien obligé de l'abandonner, ce qui va lui permettre cependant de se mettre complètement à l'écriture. En 1654, il publie son premier livre. C'est un véritable fiasco. Il cherche alors un mécène, à l'époque le seul moyen pour les artistes et écrivains sans fortune personnelle de subvenir à leurs besoins. Et c'est Nicolas Fouquet, rien de moins que le surintendant des finances de Louis XIV, qui va le prendre sous son aile. Ses premiers poèmes sont dédiés à son mécène, et plus particulièrement à son château de Vaux. Écoutez. « Il me fit voir en songe un palais magnifique, des grottes, des canaux, un superbe portique, des lieux que pour leur beauté, j'aurais pu croire enchanté. » Et cette douce balade poétique s'arrête après que Nicolas soit jeté en prison par les hommes du roi, accusés de détourner l'argent royal. C'en est fini de sa belle carrière de poète, du moins au service du monarque, ayant plaidé pour la libération de son mécène et donc s'étant opposé au pouvoir royal. S'il perd à jamais les faveurs du monarque, il gagne néanmoins le soutien de dames de la noblesse qui s'intéressent à son art. Il entre sous la protection des duchesses de Bouillon et d'Orléans, ce qui lui permet de publier entre 1664 et 1667 des recueils de contes et de nouvelles. Mais sa plus belle œuvre réside sans aucun doute dans l'incroyable collection de fables qu'il publie dès l'année suivante. Ici, les animaux prennent des caractères humains, puis au fur et à mesure, s'apparentent à de réelles personnes. Le roi lui-même n'en est pas exclu. Derrière tous ces beaux textes se cache bien sûr une morale, mais aussi un avis politique. Il se moque, entre autres, des courtisans qui utilisent la flatterie pour obtenir de meilleures places à la cour. Il quitte finalement ce monde en 1695, malade, vieilli et pauvre, après que Madame de la Sablière soit morte en 1693, elle qui l'avait fait entrer dans un salon où il côtoyait les plus grands esprits du royaume. Au total, il aura écrit près de 240 fables que l'on récite encore aujourd'hui à son professeur. Mais de quel poète vous ai-je parlé? Réponse dans un instant, mais juste avant, une petite fable.
Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie, ni loup, ni renard n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait ? Nulle offense ! Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez, mouton, canaille, cette espèce, est-ce un péché ? Non ! Non, vous leur fîtes, seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre et je pense quelque diable aussi me poussant. Je t'en dis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit puisqu'il faut parler nez. » À ces mots, on cria « Haro !» sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa pécadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant, ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
Arnaud Sotio, sous la direction de Julie Verlaye, interprétait Les animaux malades de la peste, écho à ce que l'on vit en ce moment.
C'était Les énigmes de Lucas Gandros-Fernandez, en podcast sur votre application préférée. Et maintenant, la bonne réponse. La réponse à cette énigme était la fontaine. Merci à tous ceux qui ont participé. À bientôt !